Elle nous dit, bah, l'animateur, il est méchant, il me touche ici.
Depuis 2021, on a reçu à peu près 600 signalements sur l'ensemble du territoire national.
Ce sont 7 mamans qui sont venues à la barre, qui ont défilé les unes après les autres pour raconter le véritable séisme que leur famille a traversé.
Une centaine d'écoles maternelles et élémentaires à Paris, des centaines dans le reste de la France sont concernées par des accusations de violence sur les enfants de la part d'animateurs périscolaires. Dans cette série, nous entendrons le choc des parents. Ils pensent déposer leurs enfants en sécurité à l'école, mais derrière les grilles travaillent des animateurs périscolaires violents. Nous entendrons le témoignage de ses parents et nous reviendrons sur le scandale, sur l'affaire du périscolaire. Et puis pour comprendre aussi dans la suite de cette série, les défaillances de l'école, des mairies et de la justice. Bonjour, je suis Yves Plitchy et vous écoutez Périscolaire, nos enfants en danger. Eczéma, stress, maux de ventre, ces symptômes sont ceux d'une enfant victime d'agression sexuelle à l'école par un animateur périscolaire dans une école du 11e arrondissement de Paris. Une affaire révélée en avril 2025 suivra de nombreux autres signalements dans la ville. 84 écoles maternelles, une vingtaine d'élémentaires et une dizaine de crèches concernées donc par des enquêtes pour de possibles violences, et ça juste à Paris. Depuis le début de l'année, plus de 130 animateurs sont suspendus, dont 52 exactement pour des violences sexuelles.
On réalise aussi que tout ce qui s'est passé d'anormal depuis les 6 derniers mois dans le comportement de notre fille a une explication.
Jérôme est le père d'une petite fille, Emma, un peu plus de 3 ans, maternelle, dans le 11e arrondissement.
Ça part d'un parent d'élève dont le comportement est pas normal en sortant du périscolaire un soir. Et il fait parler sa fille, on est en avril 2025, et il se rend compte en fait qu'il y a un agresseur, il y a un pédocriminel dans l'école. Et donc le lendemain, il en parle devant l'école, sur le trottoir, et donc évidemment ça crée un attroupement. Et c'est comme ça en fait que nous-mêmes, on apprend que notre enfant fait partie du témoignage de la fille de ce parent d'élève. Donc ensuite, on va aller vérifier auprès de notre enfant. Et notre fille le confirme. Elle le confirme avec ses mots. C'est complètement en raccord avec le fait qu'il y a un animateur agresseur dans l'école. On fait parler notre fille et en fait, on comprend par les mots, par les gestes, et qu'elle a été elle-même agressée par l'animateur. Agressée sexuellement, parce que d'abord, c'est il a été méchant, et ensuite, c'est mais ça pique quand je fais pipi. Et en fait, on comprend que c'est parce que l'animateur a touché les parties intimes de notre enfant. Elle nous dit, l'animateur, il est méchant, il me touche ici et il me touche là. Ma femme va vomir dans le jardin et elle revient. Et moi, il y a le monde entier qui s'écroule sous mes pieds. Encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai envie de pleurer. Et en plus, j'ai de la colère. On réalise, en fait, on refait le film à l'envers. Et on se dit, mais quand elle a fait ça, voilà l'explication. Quand elle était là, bah voilà l'explication. Quand elle m'a dit ça, bah voilà. En fait, vous refaites le film à l'envers et vous vous rendez compte que les comportements anormaux sont expliqués par l'agression.
Elle garde vraiment des séquelles de ce qui s'est passé, donc c'est hyper important pour elle justement d'être suivie, qu'on soit toujours à l'aider, à l'accompagner. Et elle va toujours pas bien.
Martine a sa fille à l'école Baudin dans le 11e arrondissement de Paris.
Mon enfant était en petite section quand j'ai appris les faits. Et j'ai appris en fait ce qui s'était passé, comme beaucoup de parents, lors de la première réunion qu'il y a eu en avril. Le directeur, il y a eu une grande réunion où ils nous ont expliqué qu'il s'était passé des faits assez graves. Et donc c'était assez difficile à vivre sur le moment. On était tous sous choc. Et j'avais pas l'impression que mon enfant connaissait cet homme-là, mais j'ai quand même voulu lui demander s'il le connaissait. Et c'est là que j'ai compris, juste en lui demandant s'il l'aimait bien, qu'il lui avait fait des choses. C'était un choc pour moi. Ils le disent d'une façon qui n'est pas notre vision d'adulte. C'est assez difficile de recueillir la parole et de ne pas s'effondrer. C'est assez dur. Et ce qui est dingue, et c'est quand même assez connu, c'est que les enfants, en général, ils aiment beaucoup leurs agresseurs qui sont des manipulateurs et qui manipulent les enfants, qui les font sentir spéciaux d'une certaine façon. Et en fait, j'ai tout simplement su en lui disant que ce monsieur-là, il avait été suspendu, qu'il ne reviendrait pas à l'école. Et là, elle m'a dit qu'elle était triste. Elle m'a dit « sois pas triste qu'il soit parti ». Et je ne suis pas triste, il a fait quelque chose de très mal et c'est très bien qu'il soit parti. Et donc là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, elle savait qui c'était, qu'elle le connaissait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover. Donc moi, quand j'allais la chercher, je le voyais pas forcément toujours. Mais en fait, après, j'ai compris qu'il s'occupait toujours il s'occupait de la cantine. En fait, il était là toute la journée, c'est juste qu'il n'était pas là quand j'arrivais, mais il était souvent là. Et donc après, le jour d'après, j'ai laissé ça comme ça, et le jour d'après, je lui ai posé uniquement la question, je lui ai redit « mais du coup, tu l'aimes bien ?» Et elle m'a dit « oui, je l'aime beaucoup ». Je lui ai dit « mais pourquoi ? Je comprends pas, pourquoi tu l'aimes beaucoup ?» Et donc c'est là qu'elle m'a dit « parce qu'il me fait ceci, il me fait cela ». Et donc j'ai compris que c'était très grave. J'ai essayé de continuer à lui poser des questions. Alors c'est très dur parce que sur le moment, je voulais pas lui faire peur et que du coup, elle veuille pas continuer à me répondre. Donc il faut garder un peu son sang-froid, continuer à poser des questions ouvertes et avoir pas l'air choqué pour que l'enfant se libre. Parce que s'il voit que c'est pas bien, il se referme. C'était assez compliqué et vraiment très très... J'étais sous le choc quand je suis ressortie de cette conversation.
Le procès de l'agresseur de sa fille s'est déroulé en mai 2026. L'animateur de l'école Baudin est accusé par 9 enfants. Mélanie Bertrand, journaliste au service police-justice de BFM, était au procès.
Ce sont 7 mamans qui sont venues à la barre, qui ont défilé les unes après les autres pour raconter le véritable séisme que leur famille a traversé. Je vais vous citer quelques-unes de ces mères qui racontent, par exemple, quand l'une d'entre elles est avertie que sa fille ferait partie des victimes présumées. Elle dit « on a tout de suite compris de quel animateur il s'agissait, on a refait tout le film à l'envers et on a compris ». Aujourd'hui, elle dit « on reste vigilant et on le sera aussi à l'adolescence ». Une autre maman, et ça a été commun à plusieurs témoignages, décrit le changement de comportement brutal de leur enfant. Les quelques semaines après la rentrée, l'une des mères dit « Dès le mois d'octobre, son comportement a changé radicalement en parlant de son enfant. Dès le réveil, notre fils demandait « Est-ce que je vais aller au goûter ?» Et quand on lui disait que oui, il se mettait à hurler. Alors bien sûr, rétrospectivement, les parents comprennent que leur enfant, il y avait évidemment un mal-être et un refus de se rendre au goûter où se trouvait cet animateur. Mais à l'époque, ils ne comprenaient pas bien ce changement de comportement. Une mère dit « Aujourd'hui, on est parti de la région parisienne. Notre fils a encore de la culpabilité. Et quand on vient à Paris, il a peur de croiser l'animateur. » Ce qui nous a marqué, c'est que toutes ces familles, vraiment, ont pris conscience de ce qui était arrivé potentiellement à leurs enfants, parce que l'homme est encore présumé innocent, avec des symptômes physiques. Ils décrivent tous chez leur enfant de 3, 4, 5 ans des maux de ventre, des terreurs nocturnes, une énurésie, le fait de faire pipi au lit, des eczémas, une sexualisation aussi de l'enfant qui se masturbe ou qui montre son sexe, ce qui n'était jamais arrivé avant. Et puis, ils ont aussi parlé des séquelles chez leurs enfants. C'était aussi assez marquant, même si beaucoup disent que depuis la suspension de l'animateur, leurs enfants globalement vont mieux, mais quasiment tous, si ce n'est tous, sont suivis par des psychologues. Il y a par exemple une petite fille qui se retient encore de faire pipi, et notamment à l'école. La mère a dit qu'elle ne souhaite plus aller aux toilettes, plus jamais à l'école, par peur de se retrouver au contact d'un animateur. Et il y a aussi une mère qui a raconté une dernière scène où son fils a une nouvelle animatrice dans son école, qui un jour, pour le faire avancer, lui a mis la main sur la nuque, et elle raconte « mon fils a hurlé, il a dit à l'animatrice qu'elle n'avait pas le droit de le toucher ». Donc on sent des enfants. C'était y a un an, donc c'est encore très frais. On a senti à travers le récit des parents, des enfants encore marqués et des parents très vigilants et qui les emmènent chez le psychologue pour tenter d'apaiser, de les faire parler, de leur expliquer qu'évidemment cet adulte n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. On rappelle qu'il est présumé innocent, mais je reprends vraiment les mots des parents. C'était des récits très sobres et en même temps assez glaçants.
Pour bien comprendre l'ampleur de cette affaire, voici quelques chiffres. À Paris, depuis le début de l'année 2026, donc 132 animateurs sont suspendus, dont 52 pour des violences sexuelles. Depuis 2021, en fait, le collectif SOS Périscolaire alerte sur son site la carte de France, des points rouges plus ou moins gros la recouvre. Ce sont tous les signalements que le collectif reçoit. Tout a commencé quand Elisabeth Gutmann a appris les violences dans l'école de sa fille.
Et il y avait une animatrice qui les gardait et qui leur disait « Si vous continuez à pleurer, je ferme la porte à clé et vos parents ne pourront plus jamais venir vous chercher. » Je suis Elisabeth Gutmann et je suis la cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Oui, ma fille était dans une école maternelle dans laquelle il y avait un climat de violences physiques et psychologiques très fort. Oui, il y avait des violences physiques, il y avait des humiliations, il y avait des menaces. En fait, dès la troisième semaine d'entrée en petite section, donc elle avait 3 ans, et ma fille ne voulait plus aller à l'école. Et puis, il y avait une animatrice qui orchestrait une humiliation collective autour d'un enfant qui pleurait beaucoup, qui avait un contexte familial très difficile, avec des violences intrafamiliales. Et donc, à l'école, il pleurait beaucoup. Et cette animatrice réunissait les enfants autour de lui pour lui chanter que c'était un bébé, parce qu'il pleurait. Il y avait des enfants qui étaient forcés, enfin tous les enfants étaient forcés à la cantine de mettre la tête dans les bras dès qu'ils avaient fini de manger pour qu'il n'y ait pas trop de bruit. Et donc il restait comme ça 20 minutes parfois. Et ma fille, elle me disait « la table elle est sale et moi je m'en peux plus et puis j'étouffe et puis j'ai chaud et puis voilà, en fait c'est juste pas possible, on ne traite pas des gens comme ça. » Je la voyais de moins en moins aimer aller à l'école. Elle n'a pas de problème pour apprendre, aucun, mais par contre elle n'aime pas l'école.
C'est quoi les conséquences justement de ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sur les enfants? Depuis 5 ans, vous les voyez, ces parents et ces enfants, victimes aussi de ces animateurs?
Alors, c'est dévastateur. Depuis 2021, on a reçu à peu près 600 signalements sur l'ensemble du territoire national. Les conséquences, elles sont dévastatrices. Elles vont d'une perte de confiance en soi pour les plus petites. C'est terrible, on en est arrivé à hiérarchiser la violence. D'une perte de confiance en soi, d'estime de soi, pour tout ce qui est violences psychologiques, on va dire, des phobies scolaires qui se sont développées, et puis des psychotraumatismes très lourds pour les violences physiques graves et pour les violences sexuelles, avec des conséquences sur des années et des années. Alors, il y avait certaines affaires dont on était au courant, puisqu'on avait des parents qui nous avaient contactés. Ça a été quand même d'une grande aide, tous les articles du Parisien, même si du coup, c'était compliqué, parce que certaines familles découvraient en lisant le journal que leur enfant avait potentiellement été victime d'agressions sexuelles ou de viol. Et donc ça, c'était très, très violent. Et donc la presse, et en l'occurrence Victoire Afrenc-Moulard, elle avait les informations et les révélait dans des articles.
Je suis Victoire Afrenc-Moulard, journaliste au Parisien, chef adjointe de la cellule Police-Justice Île-de-France et autrice du livre « Les rois du silence » aux éditions Robert Laffont. On est quelques semaines après l'affaire Alphonse Baudin, du nom de cette école dans le 11e arrondissement où il y a eu la première grosse affaire d'agression sexuelle dans les écoles parisiennes. On est donc au mois de juillet, on découvre qu'il y a d'autres accusations qui concernent d'autres animateurs à Paris pour des violences sexuelles, mais aussi des faits de violence à Paris et pas que. Voilà, on se dit qu'il y a quelque chose en fait, qu'il y a un problème et qu'il faut creuser. Donc je vais voir ma chef en lui disant voilà, j'aimerais bien me mettre sur le dossier. Ça commence comme ça. Et après, en fait, on va rapidement se rendre compte des dysfonctionnements qui existent dans le système et à quel point il y a des failles en fait. Les familles rapportent beaucoup de faits de violence éducative. Donc, qu'est-ce que la violence éducative ? C'est des animateurs qui vont crier sur des enfants. Il y aura des cas d'humiliation, des enfants qui vont être, pour être punis, mis dans une pièce dans le noir. On va aussi leur faire peur, on va les menacer. Enfin voilà, tout un contexte comme ça de violence qui existe. Et on va se rendre compte que pourquoi elles existent, ces violences, c'est parce que on va recruter des animateurs souvent qui sont pas diplômés, qui ne sont pas formés et qu'on va comme ça lâcher sur le terrain sans leur expliquer tout simplement comment prend en charge des enfants et ce qu'il faut surtout pas faire avec des enfants.
Depuis 2021, on essayait de mobiliser. On avait eu quelques articles de presse. On avait rencontré un certain nombre de politiques déjà. Et c'était la même réaction qu'on avait eue dans les circonscriptions des affaires scolaires. C'était du mépris, de la condescendance. C'était ils nous disaient mesurez vos propos. Vous parlez de violence, des mots très forts, de maltraitance. C'est pas du tout ce qui se passe. Ça n'est que des cas isolés. Mais ils disaient 95% des Parisiens sont satisfaits du périscolaire, preuve en est qu'ils y inscrivent leurs enfants. Et nous, ce n'était pas un argument qu'on pouvait accepter, puisqu'en fait, on n'a juste pas le choix. On travaille, donc on n'a pas le choix de mettre nos enfants au périscolaire. On ne peut pas venir les chercher à l'heure du déjeuner. On ne peut pas venir les chercher deux fois par semaine à 15h30, les mercredis après-midi, le reste du temps à 16h30. Ça n'est pas possible, en fait. Dans la société d'aujourd'hui, les deux parents ont besoin de travailler, d'autant plus dans les villes qui sont chères. Donc, ce n'était pas entendable. Et lui ne voulait pas entendre. Et malgré, parfois, on lui transmettait des témoignages écrits qu'on avait reçus, on donnait des écoles, malgré le fait qu'au départ, on ne souhaitait pas trop donner le nom des écoles parce qu'on voulait que la problématique elle soit prise dans son ensemble. Et donc, on encourageait les familles à écrire individuellement. Et quand certains cas très graves nous venaient et qu'on voyait qu'ils étaient bloqués, on ne peut pas laisser ces enfants tous les jours subir des brimades, subir des violences et ne pas alerter au plus haut niveau. Et en fait, même à ces parents-là, même à ces familles qui parfois nous mettaient en copie ou même quand nous, on envoyait directement, il ne se passait rien. Et on se demanderait finalement... Vraiment, sur l'ensemble de la chaîne de la société, qui veut défendre les enfants ? Qui veut les protéger ?
Qui peut protéger vos enfants ?
C'est une vraie question. C'est la vraie question qui est là aujourd'hui, en fait.
C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans la suite de cette série. Périscolaires, nos enfants sont-ils en danger ? Les écoles, la mairie de Paris sont accusées d'absence de signalement, de manque d'accompagnement et de transparence. Et comme le disait le collectif SOS Périscolaire, le sujet ne concerne pas que Paris, mais bien toute la France. Nous entendrons les voix des écoles et des villes pour comprendre les échecs du périscolaire et de la protection de l'enfance. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez écouter la suite sur le site et l'application de BFM et sur toutes les plateformes d'écoute.